et de Kuhn, on voit apparaître une notion de programme de recherche où la controverse modifie jusqu'au noyau de présupposition des programmes de recherche en présence. Vous voyez. Je reste persuadé que sur l'innovation, des gens comme Wittgenstein ont raison lorsqu'ils disent « je ne peux comprendre un régime de pensée que si je les ai d'une certaine manière formulé moi-même ». Il y a une distance entre les codes.
Une dernière question avant que tout le monde se lève. Elle est promise. Donc une dernière question, et puis pour les courageux qui sont encore là.
Una piccola domanda alla signora Cesanelli sulla negoziazione. A proposito della negoziazione, possiamo dire che c'è un ruolo che deve essere attribuito alla sanzione. Per esempio, quando parliamo del contratto osservato, a un certo punto, se la negoziazione è un successo o un scacco, può essere un successo, e in questo caso non è vero che la sanzione della negoziazione, che è un successo, sarebbe a livello della satisfazione del contratto osservato. Non so se mi sono spiegato bene.
Di aver capito questa domanda. È chiaro che se parliamo di negoziazione, io ho messo in evidenza il fatto che la negoziazione presuppone accordi, contratti e accordi. Nel momento in cui si parla di accordi, potremo individuare negli accordi l'ambito degli accordi sulla soddisfazione delle regole. Nel momento in cui le regole vengono rotte, interrotte o non rispettate, si apre un processo negoziale su questo tipo di sanzione, che è quella di aprire, secondo questo tipo di teoria, di aprire una sequenza di riparazione. Però non è una sequenza di riparazione che porta a una sanzione di punizione, è semmai un insieme di procedure concessionali all'operatore che ha commesso l'errore di riproporre la correzione con numerose serie di opportunità, per esempio opportunità negli spazi di transizione, pause. Quindi non è più una sanzione di tipo concreto, ma è una sanzione di tipo interazionale. Va bene? Cioè è la sequenza della riparazione che apre, o se l'altro ha intravisto un errore, non vuole intervenire, passa avanti nella transizione, supera, non la tratta. Per cui non si apre una sequenza di riparazione, ma c'è uno scambio continuo, un fluire, una continuità nell'ambito della conversazione. Nel momento in cui l'altro prevede una sanzione, diciamo così, di tipo metaforico, apre una sequenza fino a quando la risoluzione del problema non viene prodotto. La sanzione massima può essere l'eterocorrezione? L'eterocorrezione. Però prima di arrivare all'eterocorrezione, che è una non preferita, una risoluzione non preferita, si passa a una serie di turni di aggiustamento della correzione, che viene concessa all'allocutore che ha prodotto l'errore, che non è detto che sia di ordine linguistico, può essere di ordine, eccetera.
Dobbiamo proseguire, ma...
Sì, no, questo è abbastanza...
Bon, alors je vais utiliser la notion de place dans un sens un petit peu différent de celui qu'a proposé Francis Jacques ce matin. D'ailleurs, personnellement, je ne ferai pas de différence entre place et position. Je vais l'entendre au sens de Flahaut, disons dans la lignée de Flahaut, c'est-à-dire que cette notion renvoie par métaphore à l'idée que, au cours du déroulement d'une interaction, les différents partenaires de l'échange peuvent se trouver soit au même niveau, c'est-à-dire être sur un pied d'égalité, soit à une place différente sur cette espèce d'axe vertical invisible qui structure la relation interpersonnelle. C'est-à-dire qu'on parle qu'un des interactants va se trouver en position haute, up, en position de dominant, et l'autre en position basse, down, en position de dominé. la mise en place. C'est pour indiquer d'entrée que les places se constituent, qu'elles sont, au moins en partie, allouées au cours du déroulement même de l'interaction. Je m'explique. Dans certains types d'interactions, que l'on peut donc dire inégalitaires, le prototype en étant la relation didactique, qu'on prend toujours comme modèle de l'interaction inégalitaire, les places sont prédéterminées dans le contexte institutionnel. Pour certains théoriciens, ce serait même la seule façon pertinente d'envisager le problème des places, en particulier pour Bourdieu, pour qui tout se joue hors langage, tout est dans le sceptre. Je cite, « Essayez de comprendre linguistiquement le pouvoir des manifestations linguistiques, cherchez dans le langage le principe de la logique et de l'efficacité du langage d'institution, c'est oublier que l'autorité advient au langage du dehors, comme le rappelle concrètement le sceptron que l'on tend chez Homère à l'orateur qui va prendre la parole. » Alors, je vais un petit peu polémiquer avec cette conception, dans la mesure où il me semble qu'il y a effectivement des types d'interactions où aucun rapport de domination particulier ne se trouve inscrit dans le contexte institutionnel. C'est le cas de ce qu'on appelle couramment la conversation, que certains définissent, en particulier Suzanne K. Donaldson, définissent justement comme une interaction se caractérisant par le fait que les différents interactants jouent l'égalité institutionnelle, c'est-à-dire qu'ils effacent, autant que faire se peut, les différences éventuelles de statut qui les caractériseraient dans le contexte institutionnel. Or, on constate que même dans ce type d'interaction en principe égalitaire, des inégalités peuvent se constituer au cours du déroulement même de l'interaction. On constate qu'il va se passer des petites bagarres ou des, ce qu'on appelle en anglais « battle for dominance », des batailles pour la domination. Et d'autre part, même dans les interactions qui sont foncièrement inégalitaires, les places peuvent toujours, ou disons à peu près toujours, parce qu'il y a bien sûr le cas limite des interactions complètement totalitaires, où il n'est pas question de remettre en cause le système des places tel qu'il est déterminé dans le contexte, je dis donc presque toujours, les places peuvent faire l'objet de négociations, c'est-à-dire que les cartes peuvent être redistribuées et que les données institutionnelles peuvent être subverties de façon plus ou moins importante. C'est-à-dire qu'on observe presque toujours des espèces de rééquilibrage, des mouvements de bascule, des stratégies de résistance qui vont être développées par celui qui se trouve institutionnellement en position basse, des contre-pouvoirs, des contre-offensives, etc. C'est-à-dire que la configuration du système des places bouge constamment au cours du développement de l'interaction. Donc, je dirais que sans tomber pour autant dans une espèce de pragmatique que je dirais gauchiste ou idéaliste, ou volontariste qui considérerait qu'il suffit de dire pour faire, on peut tout de même récuser la conception déterministe et fixiste de Bourdieu pour qui le langage se contenterait de refléter un ordre social constitué hors de lui. C'est-à-dire que la relation est, comme il se doit, dialectique entre les pratiques discursives et leurs conditions socio-institutionnelles d'effectuation. Les comportements langagiers peuvent bien sûr refléter des relations de pouvoir existant entre les interactants, mais ils peuvent aussi les confirmer, les contester et même les constituer. Le discours est une activité à la fois conditionnée et transformative, ce qui pose d'ailleurs le problème très délicat, on le verra en cours de route, de l'articulation entre ce que j'appellerais les données externes et les données internes. Alors, en principe, je vais m'intéresser exclusivement aux données internes. C'est ce en quoi mon approche est quand même fondamentalement linguistique. Les données internes, c'est-à-dire que la question à laquelle je vais tenter de répondre est la suivante. Qu'est-ce qui détermine, au sein même de l'échange communicatif, ces rapports de place? Qu'est-ce qui fait que l'un des interactants va éventuellement s'imposer comme leader de l'interaction, cependant que l'autre sera mis en position de dominer? Alors, ma réponse globale est la suivante. Ce sont un certain nombre de placèmes, ou pour faire plus joli, de taxèmes, voilà le mot qui est lâché, de taxèmes, c'est-à-dire un certain nombre de faits qui peuvent être considérés, selon la perspective que l'on adopte, soit comme des indicateurs de place, c'est-à-dire des indices, ce sont les insignes de Flao, soit comme des donneurs de place qui vont permettre d'allouer les places aux différents interactants. Alors, dans cette catégorie générale des taxèmes, entre un grand nombre de faits qui sont extrêmement hétérogènes et que l'on pourrait classer selon un certain nombre de principes eux-mêmes hétérogènes, par exemple, selon le critère de la nature du signifié taxémique. Il va y avoir des taxèmes de position haute et des taxèmes de position basse. Ou bien, selon la nature du signifiant taxémique. On pourrait, sur cette base, distinguer, et c'est à cela que correspond le petit schéma que j'ai fait là, hein, des taxèmes de nature non linguistique, qui comprendraient, selon la typologie de Cosnier, les statiques, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'apparence physique, du look, la vêture, le charme éventuel, en fait, oui, la coiffure, en fait, ça. Les cinétiques lents et rapides, qui vont inclure tous les faits proxémiques, les faits posturaux, les faits mimo-gestuels, etc. Et puis, il y a les taxèmes de nature linguistique, qui se décomposent aussi en deux sous-classes, les vocaux ou prosodiques, et les verbaux proprement dits. Alors ici, je ne parlerai que des taxèmes de nature proprement verbale, dans la mesure où c'est le seul domaine où je me sens un petit peu compétente. Simplement, en ce qui concerne les deux autres catégories de taxèmes, les non-linguistiques et les linguistiques prosodiques, je ferai simplement à leur sujet deux remarques. La première, c'est qu'en ce qui concerne les taxèmes non-linguistiques, on peut signaler simplement l'importance, dans cette perspective, des données proxémiques. Importance qui apparaît déjà dans le fait que le terme de place, hein, au sens où je l'entends ici, est en lui-même une métaphore proxémique. Bon. Et il y a là donc un fait de polysémie qui n'est évidemment pas dû au hasard, c'est que tout simplement, les places métaphoriques sont en partie allouées par les places au sens propre. Bon, en particulier, une position haute au sens propre peut signaler une position haute au sens métaphorique. Bon, on sait l'importance, enfin le rôle que jouent dans les interactions des objets comme les estrades, les trônes, les tribunes, etc. Bon, il se trouve que dans les amphithéâtres, la proxémique fonctionne à l'inverse. Ah oui, mais ça n'est qu'une des bizarreries qu'on relèvera au passage dans le fonctionnement des taxèmes, évidemment. On ne peut pas assigner systématiquement et univoquement un signifié à un signifiant, c'est absolument impossible. Il y a là aussi de très nombreux faits, et de polysémie, et de synonymie, bien sûr. Alors, je note simplement que cette métaphore spatiale ne caractérise pas que le seul terme de place, mais aussi les termes de dominant-dominé, up-down. On dit encore avoir de l'ascendant sur quelqu'un, être condescendant envers quelqu'un. On parle de rabaisser quelqu'un, de le ravaler, de le traîner dans la boue, ou au contraire, de l'exalter, de le porter au nu, etc. On pourrait encore signaler, enfin un peu en vrac, hein, les expressions comme « se laisser marcher sur les pieds », « s'écraser », « laisse tomber », ou bien au contraire « avoir le dessus ». On pourrait s'interroger sur le sémantisme d'un verbe comme « toiser », hein, qui désigne un regard qui est dirigé de haut en bas, et du même coup, qui va connoter l'idée d'une supériorité méprisante. Ou bien sur le sémantisme de « effronter ». On voit que c'est dans le haut du corps que se localise la supériorité interactionnelle. Bon, tout ça pour dire simplement que la langue objet elle-même véhicule un grand nombre de métaphores proxémiques de ce type. Ma deuxième remarque concerne les taxèmes prosodiques, ou du moins certains d'entre eux. Je prends l'exemple de l'intensité vocale. Bon. Dans certaines situations, par exemple lorsqu'on a une interaction qui se déroule entre un grand nombre de participants, et je pense là à une analyse de Claudine Danquin ou une analyse de Claudine Garcia qui décrivent des interactions entre des adolescents ou entre des enfants. Bon, dans des situations de ce genre, celui qui parvient à imposer sa parole, donc à s'imposer, c'est celui qui parle le plus fort, qui parle le plus haut. Bon. De même, pour qu'un ordre réussisse, il est souvent conseillé de le donner d'une voix forte. Je cite Alice au Pays des Merveilles. Finalement, la souris, qui semblait avoir un certain ascendant sur les autres animaux, ordonna d'une voix forte. Bon. Mais on voit tout de suite surgir un problème. C'est que le recours à la voix forte peut être, certes, un moyen de s'imposer, mais aussi la preuve qu'on ne dispose pas, a priori, de l'autorité. C'est un outil à double tranchant. On peut se demander si la souris, si elle a vraiment, a priori, un ascendant sur les autres animaux, a vraiment besoin de recourir au stratagème de la voix forte. Je donne cet exemple pour montrer tout de suite le problème qu'on va rencontrer tout au long de l'exposé, c'est le problème de l'ambivalence des taxèmes, selon qu'ils envisagent justement comme reflet ou comme donateur de place. Et selon qu'on les envisage ou pas dans leur interrelation avec les données externes. On voit que la valeur proxémique d'un taxème est fonction, bien sûr, du contexte institutionnel et qu'il y a un problème d'interrelation entre les deux types de données. On pourrait faire la même remarque à propos du débit, par exemple. Bon, pour ce qui est du débit, on peut penser qu'un débit rapide, ça va être un signe d'aisance et qu'en même temps, ça va rendre plus difficile la récupération du crachoir par les autres partenaires de l'échange. Donc, ça va assurer, de ce fait, une suprématie dans le dialogue. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais en même temps, et là je cite Claudine Garcia, le débit ralenti suppose un locuteur sûr de soi, qui joue sur les émotions de son auditoire, sans crainte de se voir couper la parole. Il confère une impression de maîtrise et assure une image forte auprès des autres membres du groupe. Donc là encore, la même ambivalence peut être constatée à propos du débit rapide, hein, qui peut être un moyen d'assurer la domination, mais aussi une preuve qu'on craint de ne pouvoir l'assurer autrement. Donc là encore, c'est un outil à double tranchant. Bon, je passe donc sur les taxèmes prosodiques. Je voulais simplement signaler, avec ces exemples, qu'on se heurtait là déjà à un problème très grave et qui est peut-être le problème dans le cadre de cette problématique-là, c'est l'ambivalence de la plupart des faits signifiants et corrélativement le problème de l'articulation entre les données internes et les données externes. Alors, je vais retrouver le même problème avec la plupart des taxèmes de nature proprement verbale que je vais aborder maintenant. Alors, mon exposé va un peu avoir les allures d'un inventaire, hein, d'un catalogue, parce que je ne vais pas avoir le temps de parler très long, de m'apesantir sur chacun d'entre eux. Bien sûr, on pourrait le faire assez abondamment, mais je vais surtout les énumérer en disant quelques mots de chacune de ces catégories, en m'attardant d'ailleurs davantage sur certaines d'entre elles. Bon. Alors, je vais classer les taxèmes proprement verbaux en quatre catégories, distinguées selon le critère du niveau où ils se localisent par rapport au fonctionnement global de l'interaction. Et d'abord, ceux qui se localisent au niveau de la forme de l'interaction. Par exemple, se mettra en position haute celui qui impose à l'autre éventuellement, d'abord, sa propre langue. Cela, dans des situations particulières, sont les situations de contact, ou les communications exolingues, comme on les appelle, où les deux partenaires de l'échange n'ont pas la même, ne possèdent pas la même langue maternelle. Bon, à ce moment-là, il est bien évident que le choix de la langue va être un facteur essentiel pour la constitution des rapports de place, bien sûr. Être contraint de communiquer dans une langue étrangère, une langue qu'on communique mal, c'est proprement infantilisant. En dehors de ce cas particulier, plus communément, se mettra en position haute celui qui impose à l'autre, par exemple, son propre vocabulaire. On sait la fonction terroriste que peut jouer l'utilisation, par exemple, de termes savants. Ou bien celui qui donne le ton à l'interaction. Ton familier ou guindé, intime ou distant, relâché ou soutenu. Celui qui définit donc le style de l'échange, le type de l'échange aussi, ça renvoie à une typologie des interactions. Dans le corpus dont il a été fait mention hier, le corpus sur lequel nous avons travaillé à Lyon, la consigne impliquait un échange de type conversation familière à bâton rompu. Or, il se trouve que d'entrée, l'un des deux interactants, H, commence en disant « je vais te poser une première question », c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il tend abstraitement le micro à l'autre, qu'il se met en position d'intervieweur et qu'il fait virer l'interaction au style interview, alors que rien ne l'y contraignait vraiment. Bon, plus généralement, je dirais que se met en position haute celui qui définit le protocole de l'interaction, qui définit ses enjeux et ses règles du jeu. Toutes ces négociations se faisant généralement sur le mode implicite, mais pouvant même s'effectuer sur le mode explicite. Et j'en ai un exemple que j'emprunte à une pièce de théâtre que j'avais beaucoup aimée quand je l'avais vue à Lyon. C'est une pièce qui a été créée par une troupe hollandaise qui s'appelle Le Chien Mexicain et dont j'extrais le dialogue suivant. Le matraqueur, alors c'est le nom d'un personnage, ainsi nommé, on le comprend vite justement, parce que c'est lui qui détient la matraque conversationnelle. Et il dialogue avec un autre personnage qui s'appelle le lambin, ainsi nommé parce qu'il est un peu lent à la comprenette. Alors, le matraqueur déclare ceci. Je veux causer un petit peu avec toi. Moi, je dis quelque chose et toi, tu m'écoutes. Alors, c'est à toi de dire quelque chose et à moi d'y répondre. Cela te donne à réfléchir et ensuite tu dis que tu n'as pas compris. Alors moi, je t'explique à l'aide d'un simple exemple, de sorte que tu comprends, toi, ce que je veux dire. éventuellement un bref silence, minimalisation du gap. Alors toi, tu mets quelque chose sur le tapis, dont moi, je dis que c'est une platitude. Cela te donne de nouveau à réfléchir, sur quoi tu dis que j'ai raison. C'est comme cela qu'on entretient une conversation. Le lambin, il n'y a pas d'autre manière d'entretenir une conversation. Le matraqueur, je ne pense pas, non. Évidemment, il exagère un petit peu, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que dans cette interaction-là, on voit très clairement que le matraqueur assure sa domination avant tout en ce que c'est lui qui détermine le protocole conversationnel. C'est lui qui va distribuer les rôles, qui distribue les identités. Alors, il y a d'un côté un sujet infaillible, compétent, sûr de lui, dominateur, et puis de l'autre côté, un sujet un peu déficient. C'est lui aussi qui détermine le type d'interaction qui s'apparente en tout point à une interaction didactique. Je donne un exemple, et puis tu finis par comprendre, etc. Bon. On voit aussi dans ce passage que c'est le matraqueur qui dispose de la plupart des initiatives. Initiative de l'interaction globale, puisqu'il dit « je veux causer un petit peu avec toi ». On peut noter au passage d'ailleurs la dissymétrie de la formule, c'est pas « on va causer ensemble », mais « je veux causer avec toi » qui va être mon faire-valoir. Et puis aussi, initiative de la plupart des échanges et des thèmes qui doivent être échangés dans l'interaction en question. Alors, ça me conduit donc au deuxième aspect, au deuxième point, qui est l'état de thème se localisant au niveau de la structuration de l'interaction. Alors, les taxèmes concernant la situation de l'interaction, je les ai distribués en deux sous-classes. D'une part, problème de l'organisation des tours de parole, et d'autre part, problème de la structuration hiérarchique en unité conversationnelle. Pour ce qui est de l'organisation des tours de parole, il faut d'abord envisager le problème quantitatif, qui tout de même est pertinent et qu'on ne peut pas négliger. En effet, on peut admettre que celui qui parle, durant le moment où il parle, est en position haute par rapport à celui qui écoute. Bon. Alors bien sûr, il faut rappeler, parce que c'est un des dogmes de base de l'analyse conversationnelle qui s'élève contre l'idée de compétence passive, il faut rappeler que celui qui écoute n'est pas totalement passif, qu'il participe indirectement à l'acte de locution, qu'il participe à la construction du discours du locuteur, que le récepteur infléchit les opérations d'encodage, que le « tu » exerce un contrôle permanent sur la parole du jeu, même lorsqu'il est muet, etc. Bon, c'est ce que répète, entre autres, Francis Jacques, à très juste titre, mais Francis Jacques lui-même reconnaît qu'il existe malgré tout, et là je le cite, une dissymétrie sans privilège entre les personnes. Le locuteur doit céder la parole, mais tant qu'il l'a, il est en position provisoirement dominante. Alors, on pourrait donner un certain nombre d'arguments pour défendre cette position, mais qui me semble assez incontestable. Il me semble qu'il est incontestable qu'il y a une certaine dissymétrie tout de même entre les rôles de locuteur et de récepteur et qu'il y a un primat du dire sur l'ouïr. Bon, donc, si on admet cela, par voie de conséquence, au niveau global, on est obligé d'admettre que celui qui parle le plus et le plus longtemps domine la conversation. Bon. En principe, plus on tient le crachoir longtemps et plus on aura des chances de jouer un rôle dominant dans la conversation. C'est donc un critère très important à envisager d'abord pour déterminer le rapport de place. Le critère du temps de parole et le critère du volume de parole. Le volume de parole est en fonction à la fois du temps et du débit. Bon. Il suffit de voir l'importance des enjeux autour du temps de parole dans certains types de débats, comme les débats politiques ou les colloques, pour mesurer combien ce critère-là est important. Bon. Mais cela dit, c'est évidemment pas si simple. Il faut tout de suite ajouter qu'il y a des situations paradoxales dans lesquelles c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le silence qui va assurer la suprématie interactionnelle. Donc, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Et la valeur proxémique de cette donnée qu'est la quantité de parole ne peut être déterminée qu'en relation avec, là encore, des facteurs contextuels, et en particulier le type d'interaction dont il s'agit. Ce que j'ai dit là vaut en gros pour les conversations. Bon. Mais, bien sûr, ça ne marche pas pour des types particuliers d'interactions comme l'entretien et l'interview, qui ont un statut proxémique d'ailleurs assez bizarre, et à la limite, pour les consultations psychanalytiques, qui sont d'ailleurs à tous égards atypiques, ainsi que l'a montré dans un article Jacques Cosnier. Bon. Alors, ce problème quantitatif mis à part, ce qu'il convient aussi d'envisager, bien sûr, c'est la façon dont fonctionne l'allocation des tours de parole. Bon. D'une manière générale, on peut admettre que celui qui alloue les tours Lorsque la sélection du next speaker ne se fait pas sur le mode de l'auto-sélection, celui qui alloue les tours est ou se met, de ce fait, en position haute. C'est particulièrement net dans les interactions didactiques, ça a été noté souvent. D'autre part, c'est surtout en cas de violation du système du turn-taking que la prise de parole reçoit une valeur de taxème incontestable. Alors, on sait qu'il y a deux types de violations essentielles du système des tours, c'est l'interruption et l'intrusion. Dans l'interruption, L2 coupe la parole à L1 sans que L1 ait placé un point de complétion. Et dans l'intrusion, il y a une personne qui prend la parole, qu'il y ait ou non un point de complétion. Il y a un locuteur qui prend la parole alors qu'il n'était pas, en principe, autorisé à le faire. Bon. Ce sont là deux taxèmes manifestes de position haute. Pour ce qui est de l'interruption, par exemple, j'ai observé dans la comédie classique que c'était le monopole à peu près absolu du maître. C'est complètement systématique chez Molière, chez Marivaux. Bon, on comprend très bien, c'est dans la mesure où l'interruption constitue une menace pour la face négative de l'autre, hein, puisque c'est une incursion dans son territoire discursif, et c'est aussi une menace, évidemment, pour sa face positive. L'interruption, alors j'en ai un bel exemple dans la même pièce de théâtre que j'ai mentionnée déjà tout à l'heure. C'est un peu plus loin, lorsque les rapports de place ont complètement basculé, et que celui qui se trouve en position haute, c'est... celui qui est appelé le paperassier, c'est-à-dire le bureaucrate, en fait. Alors, le paperassier déclare « Tout ce qui sera décidé en collectivité. Qu'est-ce que nous enfantons maintenant ? La réunion, le matraqueur. Eh bien là, je voudrais tout d'abord, le paperassier, halte, tu me coupes la parole, ce n'est plus permis. Ça ne va pas comme ça. J'énonce une idée, je fais une proposition, ou je pose une question, et ce n'est que quand je donne le signe que vous réagissez, que vous approuvez, ou que vous amendez mes paroles. » Le matraqueur. Alors, je n'interromps donc plus, le paperassier. Non, les interruptions sont abolies. Le seul qui, à la rigueur, pourrait interrompre quelqu'un d'autre, c'est moi. Bon. Tu veux interrompre, hein? Bon. Alors, l'interruption serait, paraît-il, caractéristique aussi du comportement masculin dans la conversation. Là, je cite Marina Yagello dans Les mots et les femmes. Les hommes ont tendance à jouer un rôle dominant dans la conversation, ce qui n'implique pas forcément qu'ils parlent davantage. Donc c'est pour nuancer le critère quantitatif. Ce qui n'implique pas forcément qu'ils parlent davantage. Selon deux psychologues américains, Zimmerman et West, qui ont analysé 10 conversations entre femmes, 10 autres entre hommes, ainsi que 11 conversations mixtes, si les cas d'interruption sont également répartis dans les échanges de même sexe, dans les échanges mixtes, les hommes sont responsables des interruptions dans 98% des cas. Bon. Alors, là, non, là, évidemment, il faudrait interpréter les données avec certaines précautions, comme toujours. Non, parce... non, je... oui, les chiffres sont là. Hein. Non, je veux dire simplement qu'il faudrait voir, parce que, et bien évidemment, si leurs partenaires féminins sont de la catégorie qu'on appelle parfois des intéressables, hein, Ah oui. Non, c'est vrai, à ce moment-là, l'interruption cesse d'être une manifestation de la domination masculine et ça devient tout simplement une condition de possibilité de l'échange dialogué. Donc, il faudrait évidemment voir les corpus. Parce que, bon, l'interruption est toujours très généralement une offense conversationnelle, mais qui peut être plus ou moins légitimée dans certains cas, selon les cas. C'est pas pour me faire l'avocat du diable, excusez-moi. Mais... Alors, j'en viens maintenant à l'autre aspect, la structuration en unité. Bon. Toute interaction se présente d'abord comme une succession de tours de parole, au niveau superficiel, au niveau que certains considèrent comme éthique. Mais au niveau émique, c'est, ainsi que l'a montré Roulet et bien d'autres, une structuration hiérarchique d'unités emboîtées les unes dans les autres, l'interaction globale ou incursion, enfin quel que soit le nom qu'on lui donne, se décomposant en séquences, qui elles-mêmes se décomposent en échanges, qui se décomposent en interventions, etc. Bon. Alors, aux différents niveaux d'analyse, un des interactants est responsable de l'ouverture, et de la clôture de l'unité considérée. Il en possède l'initiative. Alors, c'est ce problème d'initiative que je vais parler très rapidement à propos de la structuration en unité. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur ce problème parce qu'il en a été très brillamment question hier. Je vais simplement dire ceci, c'est que prendre l'initiative de l'ouverture ou de la clôture d'une unité quelle qu'elle soit, c'est du même coup, en général, se mettre en position haute. Bon. Alors, et cela vaut bien sûr quelle que soit la dimension de l'unité envisagée. Qu'il s'agisse d'un échange, qu'il s'agisse d'une séquence, qu'il s'agisse d'une interaction, ou même de cette unité supérieure ultime qui serait constitué par l'ensemble de tous les discours tenus par l'humanité. Et vous savez que c'est un très grave problème théologique que de savoir qui, d'Adam et d'Ève, a dit le premier mot. Il paraît, enfin j'ai lu ça quelque part, mais je ne suis pas très compétente. Il paraît que ce serait dans la tradition Ève qui aurait dit le premier mot, mais que c'est Dante qui a renversé à vapeur en faisant d'Adam le premier locuteur. Bon. Alors quant au dernier mot, évidemment, il est impossible, je serais bien incapable de prophétiser là-dessus. Mais cela dit, on pourrait fournir un très grand nombre d'illustrations du fait que d'avoir le premier mot ou d'avoir le dernier mot fonctionne comme un taxème de position haute. Ça a été abondamment montré s'agissant des interactions didactiques, des interactions entre médecins et malades, en particulier dans un article très intéressant de Michel Lacoste, étude des linguistiques appliquées 37. Dans les conseils de classe aussi, j'ai un étudiant qui a travaillé sur un corpus enregistré dans un conseil de classe, on voit s'affronter, parce que là c'est vraiment un affrontement, la directrice, qui en l'occurrence est particulièrement autoritaire, et puis les autres enseignants, et il apparaît très nettement que c'est la directrice qui ouvre et qui clôt toutes les unités. Bon, et en même temps, le bec des autres enseignants, pour ce qui est de la clôture, c'est toujours par un voilà très péremptoire. Et... Il y en a aussi des exemples très nombreux dans le théâtre. L'un des plus éloquents, c'est le cas d'Agnès dans l'école des femmes, qui a été analysé par Bernard Magnier, qui montre de façon très claire que l'émancipation d'Agnès, ce qu'il appelle sa conquête de la parole, sa conquête corrélative de l'identité, commence à partir du moment où elle cesse d'avoir des interventions exclusivement réactives, du type « oui, monsieur, Dieu merci », pour oser des interactions initiatives. Mais, là encore, il me faut tout de suite nuancer l'affirmation générale. Il me faut ajouter que l'interprétation en termes taxémiques d'un comportement initiatif donné doit tenir compte, d'abord, de la nature de la réaction, évidemment. Ce n'est pas le tout de prendre des initiatives, encore faut-il qu'elles soient acceptées. Encore faut-il qu'elles réussissent, encore faut-il qu'elles prennent. Bon. Tout dépend donc de l'issue des négociations, qui sont bien attestées s'agissant de la structuration d'une conversation, car il arrive très souvent, ainsi qu'on l'a vu hier, que cette structuration donne lieu à des tiraillements, à des conflits, conflits dont on peut réparer les traces sous forme de zones de turbulence dans le tissu interactionnel. D'autre part, l'échec d'une initiative peut revêtir diverses formes. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un tel échec peut contraindre le locuteur à renouveler son initiative. Bon. Il arrive donc, à la limite, que la signification taxémique du facteur « nombre des initiatives » en vienne à s'inverser, bien sûr. Et que, paradoxalement, la quantité supérieure des initiatives devienne un marqueur de position basse. C'est le même problème que pour la quantité de paroles. On pourrait par exemple prendre l'exemple d'une pièce de Tardieu qui s'appelle « La politesse inutile » ou bien une pièce de Pinter qui a été analysée par Derberton, une pièce où l'on voit s'affronter deux personnages, l'un s'appelle Gus, qui est le plus bavard et le plus entreprenant, et l'autre s'appelle Ben, qui lui au contraire fait preuve d'une évidente inertie, qui fait preuve de mauvaise volonté, qui inflige à son partenaire toute une série de rebuffades. Or, des deux, c'est manifestement le second qui se trouve en position haute par son comportement négatif lui-même. Donc là encore, il faut voir dans chaque cas particulier. Donc, j'énonce des principes très généraux, mais qui doivent à chaque fois être modulés par l'observation des particularités contextuelles. Alors, en ce qui concerne troisièmement, le contenu de l'interaction. Il s'agit de se demander en quoi les contenus échangés peuvent être des facteurs éventuels de domination dans le dialogue. Alors, j'ai distingué le contenu sémantique au sens étroit, vs le contenu pragmatique, c'est-à-dire illocutoire du discours. Sous la rubrique contenu sémantique, il faudrait envisager, mais je le dis très rapidement, le problème des thèmes et des sous-thèmes. Bon. Quels que soient les problèmes que l'on a à découper, à identifier les thèmes, il est sûr que ce sont des candidats à fonctionner comme des taxèmes, et cela à double titre. Premièrement, d'abord en ce qu'ils sont introduits par l'un ou l'autre des interactants, ce qui nous ramène au problème précédent, à savoir celui des initiatives. L'un des interactants va être responsable de l'initiative d'un thème ou d'un sous-thème, et ce faisant, il se mettra en position haute. Bon. Mais il y a un autre aspect taxémique concernant les thèmes, et qui est la nature même du thème. Tel thème va être propre à assurer la prédominance de L1 ou de L2, dans la mesure où il concerne plus l'un des deux partenaires de l'échange, dans la mesure où il relève davantage de ses centres d'intérêt et de ses domaines de compétences. Si le thème introduit est tel que L1 y manifeste une évidente supériorité de savoir, ça va lui garantir une certaine maîtrise de l'interaction. Alors, ce que je veux dire, c'est que ces deux valeurs taxémiques du thème sont indépendantes. Ce sont deux facteurs qu'il faut envisager de façon isolée, car ce n'est pas nécessairement corrélatif. Bon, en effet, L1 peut fort bien initier un thème, et de ce point de vue-là, il se mettra en position haute, mais un thème qui va concerner surtout L2. Et c'est de cet autre point de vue-là que L2 sera, lui, en position haute. Bon, alors ça peut se passer, ça se passe, soit que ce soit volontaire de la part de L1, L1 va accepter de se laisser déposséder de la position haute au profit de L2, soit par gentillesse, soit par condescendance. C'est constant, par exemple, dans les dialogues adultes-enfants. Mais ça peut être aussi involontaire. C'est-à-dire que L1 croit introduire un thème qui lui est favorable, et puis, bon, pas de chance, il se trouve que, contre son gré, il va se trouver débordé, dépassé par la compétence de L2. Bon. Voilà pour ce qui est des thèmes qui sont donc à double titre susceptible d'être le lieu d'inscription de certains taxèmes. Ensuite, sous cette même rubrique, il faudrait envisager, mais là je vais juste me contenter de passer, il faudrait envisager le problème de toutes les négociations qui portent sur les signes échangés, négociations qui peuvent s'effectuer, comme toujours, sur le mode implicite ou sur leur mode explicite par le biais d'énoncés de type méta, métalinguistique, métadiscursif. Bon. Négociations qui peuvent se focaliser soit sur le signifiant, soit sur le signifié, soit sur le référent. Alors là, je ne vais pas épiloguer, j'en ai parlé ailleurs, justement dans l'article du numéro de Verboom qui a été mis en vente ce matin. Et en ce qui concerne mon article, j'ai apporté un certain nombre de tirés à part que je distribuerai à ceux qui sont intéressés. Bon, ils sont là. Mais si vous voulez, tout à l'heure, j'ai distribué. Bon, alors là, j'insiste pas mal sur ce problème des négociations portant sur les signes, hein, dans leur triple aspect signifiant, signifié, référent. Et pour ce qui concerne le topo que je fais ici, je me contenterai de dire que les négociations sur les signes sont très fréquentes dans certains types d'interactions, comme les échanges de type théorique, par exemple, mais qu'elles sont aussi bien attestées dans la conversation ordinaire. Bon. En particulier en ce qui concerne quelque chose sur lequel j'ai personnellement travaillé assez longtemps, c'est-à-dire les contenus implicites et surtout les sous-entendus et les insinuations. Ce sont là des types de contenus qui ont un caractère très précaire et très problématique et qui, de ce fait, vont particulièrement donner lieu à des controverses interprétatives, donc à des négociations. C'est du type « qu'est-ce que tu veux insinuer là ?»« Oh, mais j'ai rien voulu dire de semblable, etc. etc. » Bon, alors, en ce qui concerne leur valeur de taxème, je dirais que, bien sûr, en gros, on peut dire que se mettre en position haute, celui qui impose à l'autre son vocabulaire, son interprétation des énoncés, son analyse du référent, etc. Mais que là encore, le problème n'est pas si simple. Et j'en donnerai un seul exemple, c'est le cas d'un comportement discursif particulier qu'on peut appeler le soufflage, l'acte de souffler. C'est-à-dire tous les cas où L2 fait à L1 une suggestion terminologique sous la forme d'une expansion additive ou corrective. Alors, quel est le statut taxémique de cet acte de soufflage? Bon, ben, en gros, bien sûr, le souffleur se met en position haute si son aide est acceptée, bien sûr. Si son aide est refusée, de la position haute où il a été très, très, très momentanément mis, il va retomber dans une position plus basse encore que s'il s'était épargné cette assistance. Bon. Alors, donc, d'une manière générale, si l'aide est acceptée, le souffleur est en position haute puisqu'il fournit ainsi la preuve de sa compétence, de sa maîtrise et en même temps, d'ailleurs, de sa générosité. Donc, il fait d'une pierre deux coups. Mais en même temps, je dirais que c'est une position haute qui est risquée, bien sûr, et qui est mitigée, parce que en se mettant ainsi au service de L1, L2 s'efface devant le discours de l'autre, sans véritablement imposer sa parole propre. Bon, donc vous voyez toujours l'ambiguïté de statut des comportements discursifs. L'acte de soufflage est quand même fondamentalement un taxème de position haute, mais qui comporte une certaine dose d'ambivalence, ambivalence qui est d'ailleurs corrélative des problèmes que pose cet acte du point de vue et du découpage en intervention, c'est très difficile de savoir s'il s'agit là d'intervention à part entière ou pas, et d'autre part, du point de vue de son statut énonciatif. Qui est l'énonciateur d'un tel acte de langage? Ça serait à discuter, dans la mesure où le soufflage est une espèce de citation d'un type très particulier, puisque c'est la citation de ce que l'autre aurait dû dire, mais qu'il n'a pas dit. Bon. Alors, quant aux opinions qui sont avancées de part et d'autre, je n'en dirai pas grand-chose non plus, mais simplement qu'elle fait l'objet de négociations permanentes par le biais de procédés argumentatifs très divers et sur lesquels existe une littérature très abondante. Je passe. Je signalerai enfin que l'issue des négociations d'opinion est évidemment décisive pour l'étude des rapports de place. En gros, se met en position haute celui qui emporte le morceau dans les négociations d'opinion, celui qui parvient à faire valoir son point de vue quand la négociation aboutit, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Bon, en revanche, sera mis en position basse celui qui accepte de se rallier, de s'écraser, comme on dit, de tomber d'accord avec l'autre. Bon. C'est donc qu'il est de la plus haute importance d'observer de très près comment s'expriment dans les interactions les réfutations, les désaccords, ou au contraire, les ralliements. Ralliements qui peuvent d'ailleurs s'exprimer soit explicitement, « Ah oui, c'est vrai, t'as raison après tout bon. », ou bien plus subrepticement, par incorporation dans son propre discours, d'une opinion de l'autre qui avait été précédemment combattue. Bon, c'est-à-dire un procédé qui relèverait pour rouler des procédés diaphoniques. Bon. Il y en a un bel exemple dans toujours le même corpus dont il a été question hier, puisque dans le premier dialogue dont a parlé Bouchard, bon, H, l'homme, H1, commence par avancer, un peu imprudemment d'ailleurs, que la mode vestimentaire, c'est une affaire de filles. Ça ne concerne pas les garçons. C'est une affaire de filles. Bon. Alors, tout de suite, F proteste très vigoureusement. Hein, elle dit, mais non, pas du tout, du tout. Vous, les garçons, vous êtes autant concernés que les filles. Alors, que fait H1 ? Bon, malgré quelques concessions apparentes, tout de même, en gros, il campe sur ses positions de façon assez têtue et obstinée, en gros, dans le premier dialogue. Il se rallie, mais on sent que c'est purement de pure forme, et il revient sans arrêt à la charge en disant, oh, quand même, c'est surtout une affaire de filles. Bon, très bien, voilà pour le premier dialogue. Mais dans le troisième dialogue, où H1 parle avec un autre garçon, qu'on appelle H2, il initie l'interaction de la façon suivante, qui est assez cocasse, tout de même, c'est, alors, on a eu une discussion avec la jeune fille. Alors moi, la première question que je lui ai posée, c'était, qu'est-ce qu'elle pensait de la mode actuelle, la mode aussi bien féminine que masculine ? Bon, c'est pas du tout ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que là, H1 commet une espèce de petit larcin. Il vole, il chippe l'opinion de l'autre et il l'incorpore à son propre discours. Bon,